Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. 5,5% de déficit en 2023, nous dit ce matin l'INSEE. On redoutait depuis quelques jours 5,6, on peut se rassurer. Bon, initialement, on attendait 4,9. Donc il y a 0,6 points d'écart. 0,1 point, ça fait 3 milliards de manque à gagner pour les caisses de l'État. Donc là, ça fait 18 milliards. La dette a aussi été mise à jour. Elle s'élève à 110,6% du PIB. Alors c'est moins qu'en 2022, mais c'est presque un point de plus que ce qui était prévu. Est-ce que tout ça est grave? On va poser la question. Bruno Le Maire a martelé sa détermination à repasser sous les 3% de déficit public en 2027. C'était ce matin chez nos confrères de RTL. On a eu le rabot sur la dépense d'État, 10 milliards par décret. Il va y avoir des économies dans la dépense sociale. Gabriel Attal sera demain soir à la télévision pour donner les contours de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et pendant ce temps, c'est le concours Lépine des solutions fiscales qui est ouvert. Hausse d'impôts, alors on commence par où? Chacun a son dîner, notamment du côté des élus. Je demanderai à mes invités s'ils croient aux vertus de la TVA ou de la CSG sociale. C'est l'idée brandie désormais par Bruno Le Maire. Basculer 5 points de cotisation vers la TVA, soit 60 milliards d'euros. Et puis on jettera un petit coup d'œil sur ce rapport brièvement évoqué vendredi, qui se veut rassurant sur la chute de la productivité en France. Une partie de ce recul de la productivité, d'après la Banque de France, est conjoncturelle. Et l'établissement, la Banque centrale, anticipe que l'on aura rattrapé un tiers de la productivité perdue d'ici 3 ans. Je dis ça parce que Natacha Valla est avec nous. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Car elle est aussi présidente du Conseil national de la productivité, senior advisor doyenne de l'école du management de l'innovation de Sciences Po. Et vous avez coécrit Le futur de la monnaie. Il est numérique, Le futur de la monnaie, Natacha.
Mais oui, je ne le nie pas.
Dany Lang, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord et économiste atterré, membre du manifeste pour l'industrie. Ça tangue chez les atterrés, vous m'avez dit.
Oui.
Je sais pas, il faut que j'arrête de vous présenter économiste atterré, vous me le dites.
Oui, je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave.
Ah bon? J'ai eu un doute, c'est pour ça que. Voilà.
C'est pas grave. Ça reviendra sans doute.
Je biffe. Christian Saint-Etienne, bienvenue.
Bonjour.
Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Cercle des économistes. Vous avez écrit Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, collection Alpha. Est-ce que c'est grave les chiffres que j'ai donnés, Christian?
C'est inquiétant.
Ça fait 50 ans, la 50e année de budget dans le rouge.
C'est
on peut vivre avec, finalement.
C'est inquiétant parce que ça renforce la seule place de numéro 1 en économie mondiale que personne ne nous conteste, c'est-à-dire le record du monde de la dépense publique. Sachant que j'anticipe les débats futurs, le point clé, c'était toujours, et on recommence la pédagogie, c'est la question de l'efficacité de la dépense. En 2024, parce que là on cite les chiffres de 2022, mais il y avait les mécanismes de compensation sur les prix de l'énergie. En 2023, selon la Commission européenne, on sera un petit peu au-dessus de 56 points de PIB, mais c'est 8 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro. Et si cet excès de dépenses publiques nous donnait 4% de croissance, 3% de taux de chômage et une sécurité parfaite sur le territoire, moi je vote pour. Donc la question c'est celle de l'efficacité. On a une dépense colossale avec un déficit qui nous éreinte et en même temps des services publics à la dérive. Donc c'est une restructuration de la dépense publique.
Mais c'est le chantier d'une vie, Christian.
Mais c'est le chantier d'une vie. C'est notamment le chantier de votre vie, Nicolas, parce pense que dans 10 ans, vous aurez encore des mauvaises nouvelles de déficit à annoncer.
Mais si vous me dites que dans 10 ans, j'aurai des mauvaises nouvelles de déficit à annoncer, c'est que finalement, l'heure de vérité n'est pas là. Bon, ben très bien, alors on a le...
Ah, j'ai pas dit qu'entre-temps, on sera pas pris des baffes.
Parce que c'est sûr qu'on va probablement se faire dégrader la fin avril. Oui. Ça va être une humiliation, mais je suis persuadé que dès le lendemain, l'Agence France Trésor placera nos dettes sans aucune difficulté. Oui. Et que le spread avec l'Allemagne ne bougera pratiquement pas. Finalement, c'est pas brillant parce qu'on va se prendre une dégradation.
Non, mais c'est surtout inquiétant à cause de cette inefficacité de l'action publique.
C'est le plus gros déficit de la 5e République hors crise et récession. C'est une année de TVA. Voilà, 154 milliards d'euros et encore celui de l'État est encore plus élevé. C'est grave, docteur Lang.
Alors, moi, évidemment, je ne vais pas être d'accord avec ça.
Vous n'allez pas être d'accord avec quoi, d'abord?
Avec l'ensemble des choses qu'a dit Christian Saint-Etienne, même si lui est modéré et qui sait quand même Voilà. C'est... Mais
il n'y a pas de problème d'efficacité de l'action publique.
Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème d'efficacité de l'action publique. Par contre, moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est les réactions politiques. Quand l'économie ralentit et que derrière on va couper dans la dépense publique, on a déjà fait ça et on a déjà vu les effets que ça a. Ça aggrave la dette et ça aggrave le déficit. C'est pas nouveau. Je pensais qu'on avait appris des années 2010-2011.
Mais c'est la dépense, vous dites, aggrave le déficit.
Non, c'est couper dans la dépense publique, oui, aggrave le déficit.
C'est un effet récessif.
Mais évidemment.
Ça dépend
évidemment,
où on coupe.
Mais ça dépend où on
coupe. Évidemment, mais là, sur les 10 milliards qui ont été coupés, j'en suis désolé, on a coupé dans l'éducation, on a coupé dans des dépenses qui sont plutôt efficaces, à mon sens. Donc, voilà. Alors, ceci dit,
904 milliards dans la recherche et l'université.
Exactement, alors que l'université est déjà exsangue. Je vous rappelle que je donne cours dans des amphis qui ne sont pas chauffés en hiver, où il pleut, et où les étudiants se battent comme ils peuvent. Et puis, il n'y a plus de moyens pour la recherche. On passe notre temps à remplir des papiers pour avoir des financements.
Dany Lang, si on dit ça veut dire qu'on se prend 154 milliards de déficit, on démarre l'année avec un acquis de croissance qui n'est pas là, et on continue parce qu'on se dit que de toute façon, si on fait quelque chose...
Mais Nicolas, quand vous conduisez...
Oui, plus beaucoup, mais...
Moi, je conduis. Quand la voiture ralentit et qu'elle ne roule pas assez vite, j'appuie pas sur le frein. J'appuie sur l'accélérateur.
Ça voudrait
dire quand elle roule trop vite, j'appuie sur le frein.
Et dans la circonstance, appuyer sur l'accélérateur, quoi ?
Ce serait justement augmenter la dépense publique plutôt que la diminuer. C'est dans les périodes où ça va bien. Justement,
oui,
si on était dans une période telle que vous la décriviez tout à l'heure, ce serait effectivement le moment de baisser la dépense publique, d'augmenter les impôts. Mais là, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Et puis, on nous dit souvent la dépense publique par rapport au PIB. 56%, ça veut pas dire que c'est 56% du PIB. On compare à une grandeur familière. Mais si on regarde la dépense privée, c'est 250% du PIB. Je veux pas dire, ah mon Dieu, il faut arrêter l'investissement, il faut arrêter la consommation. Non, on compare ça à une grandeur familière. C'est une comparaison.
Se comparer avec les autres pays n'est pas totalement insensé.
Oui.
On compare la dépense des pays qui nous ressemblent, qui ont des modèles sociaux pas forcément identiques à notre État-providence, qui rémunèrent moins les retraités, par exemple. Mais
Je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème d'efficacité, et notamment, je serais, moi, favorable à ce qu'on regarde un peu plus près les 160 milliards d'aides aux entreprises qu'on verse chaque année. Mais oui, mais c'est le chiffre d'Anne-Laure Delatte, c'est un chiffre qui est corroboré par les travaux du Clercé.
Non, mais je suis d'accord.
Je ne suis pas pour qu'on coupe dans tout. Hein. Une fois de plus, l'aide aux entreprises, notamment pendant le Covid, j'avais dit qu'il ne fallait pas faire des prêts garantis par l'État, mais aider directement les entreprises. Maintenant, on en voit les conséquences. Vous avez vu les tribunaux de commerce ?
Ah, j'ai vu.
À quel point ils sont engorgés ? On aurait dû les aider directement, point barre. Donc maintenant, on crée une contrainte en plus, avec ça, sur la reprise de l'investissement privé.
Elle va mettre l'église au milieu du village. Moi j'avais 140 milliards le total de ce que les entreprises perçoivent d'une manière ou d'une autre. L'essentiel de ce montant.
Pour compenser des contraintes mises en place par l'État.
Il y a pas loin de 100 milliards qui sont des allègements de cotisations.
Voilà.
Oui.
Parce que le modèle social coûte cher et qu'on n'a plus assez d'actifs pour le payer, donc on allège les cotisations de manière à ce que les gens aient un boulot. Parce que sinon, il n'y a plus de compétitivité du tout. Christian nous dit il faut de la dépense efficace. En plus, je suis d'accord avec vous sur le côté contracyclique. Oui, effectivement, c'est pas quand il pleut qu'il faut.
Sur le contracyclique, il faut laisser parler.
Allez, Natacha.
Natacha, parce que j'ai plein de choses à dire.
Qui est discrète.
Trois points.
Non, mais qui est atterrée, c'est le cas de dire.
Le contracyclique versus le structurel, la question de l'acceptabilité politique de ce que ça implique, et puis ensuite, quand même, les marchés, parce que je vous trouve bien à l'aise sur ce qui va se passer par la suite.
Oui, j'ai oublié. Je suis juste au demeurant. Sur les marchés, la dette publique à 10 ans, on est un taux de réel quasiment nul. Donc 3% sur les OAT à 10 ans, 3% d'inflation.
Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de warning.
En Grèce, en octobre.
Mais vous voulez.
Non, mais en Grèce, en octobre 2010, mais tout allait bien.
Hein, oui, excusez-moi, Christian, la Grèce, elle avait.
Mais si.
Non, c'est pas comparable. Christian, la Grèce, elle avait grugé sur son déficit. Il était deux fois plus important. Vous savez, on découvre.
Et nous, on était à 4,8, on se retrouve à 5,5.
Mais on n'a pas menti. On n'a pas dissimulé, menti. La situation est moins bonne.
Non, là, je trouve comparer avec un pays qui
s'appelle
Non,
mais c'est pour vous dire que avant un accident, tout va bien.
C'est vrai qu'un accident de crédit peut... On a vu qu'avec Liz Truss, la Grande-Bretagne s'est retrouvée assez rapidement avec un petit stress.
Oui, non, mais on ne peut pas...
Natacha, pardon, je vais quand même le dire. Je suis contente d'avoir remis ce sujet en débat parce que
j'allais y venir.
Je pense qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de la main l'idée qu'avec la performance budgétaire qui a été rappelée tout à l'heure depuis des décennies et le fait que le point de départ à chaque fois change, c'est-à-dire que le stock de dette à refinancer augmente d'année en année. Donc tant que les taux réels sont nuls, ça va. Mais quand les taux réels vont augmenter, ça sera très très mordant sur justement la dépense publique disponible pour financer d'autres choses. Donc ça, il faut le garder en tête.
On est à plus de 50 milliards d'intérêts.
Et on n'est pas les seuls. Oui, exactement. Et on n'est pas les seuls à émettre de la dette sûre, des actifs sûrs dans le monde. Il y en a plein d'autres, notamment les États-Unis qui ont encore pignon sur rue malgré leur propre
privilège du dollar,
déficience.
Donc, privilège du dollar est garanti par la Banque centrale.
Malgré les déficits délirants,
très modeste par rapport à ça. Très humble et anticiper les choses. Et anticiper les choses en annonçant des déficits ex post qui sont beaucoup plus élevés, en plus au lendemain d'une discussion sur les règles budgétaires en Europe, qui sont quand même un élément essentiel. Il faut faire très très attention parce que c'est un petit peu explosif. Sur la question du structurel versus contracyclique, effectivement la politique budgétaire c'est un outil puissant contracyclique. Et effectivement, en termes de timing, il aurait fallu faire ça il y a un an plutôt que cette année. Cela dit, quand on a un déficit structurel, un déficit qui persiste d'année en année, on ne peut pas avoir la même... Voilà, on ne peut pas avoir la même marge de manœuvre sur ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques qu'on aime si bien. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'effectivement, pour en revenir à la qualité de la dépense publique, parce que là, je crois qu'on est tous d'accord, si la qualité de la dépense publique n'est pas là, du point de vue de la croissance et de la productivité, d'une part, mais aussi du point de vue subjectif, en tout cas subjectif, peut-être objectif d'ailleurs, mais en tout cas perçu par le citoyen qui paye aussi ses impôts, si lui, il pense qu'il n'en a pas pour son argent et qu'on lui rajoute une hausse d'impôts dans un contexte où c'est déjà difficile pour lui, il va y avoir un peu un sentiment de révolte. Je ne veux pas payer pour des choses qui sont de mauvaise qualité. Donc, c'est cet exercice-là qu'il faut faire pour finalement trouver la capacité à lever l'impôt, c'est l'alpha et l'oméga, peut-être même plus, ou en tout cas en complément de l'indépendance de la Banque centrale et de la capacité à imprimer de l'euro, qui permet à un État de rester solvable. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
Mais le truc, c'est que la qualité de la dépense publique et son efficacité, c'est un vrai sujet, mais ça prend un temps de dingue. Ça dépassera de loin le mandat d'Emmanuel Macron. C'est un chantier monumental. Personne n'a envie de s'y attaquer parce que les structures sont lourdes, parce que l'éducation nationale,
Les Suédois, l'ont fait. Et le
Canada l'a fait.
La réduction, et dans ces deux cas, la réduction de la dépense publique a été positive pour la croissance. C'est des exemples. Alors, il y a des façons de le faire.
Dany Langalesi, puis Christian, qui voulait réagir.
Laissez-moi juste réagir sur l'exemple de la Suède et du Canada. Vous parlez des années 90, où on est dans une conjoncture très particulière, et en plus, ces deux pays, en même temps, ont poussé leur taux de change à la dépréciation. Donc, c'était d'autant plus facile de faire ce genre de politique que c'était les seuls à le faire dans le monde. Donc, évidemment, quand vous êtes le seul à pousser votre taux de change à la dépréciation, et que par ailleurs, vous êtes les seuls à mener ce genre de politique, ça peut fonctionner. Si tout le monde fait ça en même temps comme en Europe, on repart comme en 2010-2011, tout le monde baisse la dépense en même temps, et ça va se passer très mal. Et par ailleurs, puisqu'on parlait de l'éducation, etc., je vous signalerai que c'est là-dedans que les coupes ont été faites.
Notamment, mais juste un chiffre quand même, parce que j'entends, vous dites, tout le monde fait tout en même temps, et effectivement, on a tous vécu la même pandémie, tous vécu le même choc énergétique, sauf que vous prenez les Pays-Bas, ils sont à 0,3% de déficit. Le Portugal a un excédent supérieur à ce qui était prévu. Ils devaient faire 0,8, ils font 1,2. L'Allemagne se dirige tranquillement vers les 60% de dette publique. On a la même monnaie, on a eu les mêmes crises, on a eu les mêmes chocs. Donc,
C'est le point clé. Donc, effectivement, sur les 5,5 points de déficit de 2023, il y a vraisemblablement au moins 3 points de déficit structurel qui existaient avant la crise. Avant la crise, nous avions 3 points d'écart de déficit vis-à-vis de l'Allemagne et des Pays-Bas.
Oui,
donc, on les garde à la sortie. Si on était à 2,5 au lieu de 5,5, on traiterait ça en une minute. Le problème, c'est les 3 points de déficit structurel qu'on traîne depuis une quinzaine d'années et qu'on n'arrive pas à traiter. Alors, il faut quand même rappeler, parce que in fine, si on fait un cours d'économie, on va être tous d'accord. S'il s'agit d'investir dans les infrastructures, s'il s'agit d'investir dans l'éducation et la recherche, on est tous favorables. Quand vous regardez la dépense publique aujourd'hui, si vous prenez l'éducation, je parle sous le contrôle de mes deux camarades, si vous prenez l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche et développement, on est à 8 à 9 points de PIB sur les 56 points de dépenses publiques. Bon, l'essentiel de la dépense publique, c'est la protection sociale, hein, avec les grands programmes retraite, santé, chômage, allocation familiale et prestations.
Accident du travail.
Et surtout les prestations de compensation de revenus pour les gens qui sont en inactivité.
Les transferts sociaux.
Donc quand vous regardez les 56 points, vous avez 34 points de protection sociale. Hein. Deux tiers de la dépense publique, c'est la protection sociale. Donc, d'une certaine façon, on va les couper dans 56 moins 34, il reste 22. On va les couper dans les 22 plutôt que dans les 34. Alors la question, c'est dans les 34, les grandes réformes. On a commencé, le gouvernement a finalement fait un petit bout de réforme des retraites. Quand vous faites une réforme des retraites, c'est favorable à l'offre. Donc toute la question, c'est toujours de se dire, est-ce que les réformes qu'on fait vont favoriser l'offre ou pas ? Parce qu'il n'y a pas que la demande, il y a aussi l'offre. On a une crise d'offre en France. En fait, c'est pourquoi on a un énorme déficit extérieur ? C'est parce qu'on a une offre insuffisante.
Dit donc, autrement, ça veut dire qu'on consomme trop et qu'on produit
voilà,
pas assez.
Voilà, on produit pas assez et on produit pas les produits que les gens veulent. Donc la question, c'est comment restructurer. Dany parlait et on parlait avec Natacha avant l'émission du fait que beaucoup d'entreprises vont se retrouver contraintes sur le plan financier parce qu'elles ont le remboursement des prêts antérieurs par l'État. Donc la question, là, c'est toujours celle des fonds propres de l'économie. Ça fait maintenant 40 ans qu'on parle d'avoir un complément de fonds de retraite en CAPI avec la retraite en répartition parce que ça donne des fonds propres aux entreprises. On n'arrive pas à le faire. Sur le chômage, on a 300 000 emplois non pourvus, 2,5 millions de chômeurs. Il y a un matching. Pourtant, ça fait 40 ans qu'on fait des réformes pour essayer d'améliorer le matching. Ça ne marche pas tellement. Donc on a vraiment une question, et puis au niveau des collectivités locales, on n'en parle pas, mais il y a quand même, quand vous regardez les dépenses de collectivités locales, une vraie question sur la dérive des dépenses de collectivités
locales. Ça, c'est du diagnostic qui malheureusement est connu, mais Danny Lang, allez-y.
Alors, juste une réaction, je suis d'accord avec une partie des choses que vous disiez, mais sur les emplois vacants, n'oubliez pas que 86% de ces emplois sont pourvus dans l'année. Non plus, c'est normal d'avoir des emplois vacants dans une économie dynamique.
Il y a du frictionnel, donc, toujours.
Il y a toujours du frictionnel, c'est pas nouveau, c'est pas propre à la France. Même en URSS, on était à peu près à 2% de frictionnel. Donc, on va pas pleurer sur ces emplois vacants. C'est okay. Vrai qu'il y en a un peu plus qu'avant le Covid, mais enfin, ça fait pas partie du diagnostic, je pense. Par ailleurs, n'oubliez pas quand même qu'il y a les chômeurs de catégorie B et C, que moi, j'inclus dans le chômage.
Alors, ça, c'est les chiffres de Pôle emploi.
Démarches actives.
Oui, c'est les gens qui ont travaillé un petit peu.
Un petit peu, mais voilà.
Oui, mais ça conforte le fait qu'on a une offre insuffisante et une croissance insuffisante.
On va marquer une pause. J'aimerais quand même que vous entendre sur ce que disait Natacha, parce que c'est un vrai sujet, hein, de savoir si un jour ou l'autre, ce ne sera pas l'heure de vérité quand même sur le placement de nos fameuses OAT. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est vrai. Mais c'est quand même le truc le plus important. Dès l'instant où ces OAT ne partent pas comme des petits pains, notamment un jeudi sur deux entre 10h et midi, c'est là que les choses se gâtent. Et c'est là qu'il faut des réponses ultra rapides et ultra désagréables. Et puis, selon vous, est-ce qu'on va pouvoir échapper aux hausses d'impôts ? Moi, j'ai plein d'idées là qui sont sorties ces derniers jours. Il y en a pour tout le monde. Hein. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Natacha Valla, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, qui a coécrit Le futur de la monnaie. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord, et puis Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes et auteur du conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Juste un petit mot pour saluer Noël qui m'a envoyé un mail se demandant si je lisais les mails qu'on m'envoyait. Alors je réponds pas toujours, c'est vrai, mais j'ai lu votre mail, il réagissait à pas mal d'éléments entendus dans l'émission ces derniers jours. Vous savez que si vous voulez réagir, il vaut mieux m'écrire sur Twitter, enfin X, c'est là où j'essaye de lire à peu près ce que vous m'envoyez.
Le réseau de l'amour.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a, s'il y en a un qui est favorable à la solution fiscale, qu'il s'exprime maintenant ou se taise à jamais ?
Très franchement, moi, je pense que une fois de plus, baisser les dépenses, c'est une très mauvaise idée.
Mais monter les impôts aussi.
Monter les impôts, notamment sur les classes moyennes et les classes populaires, ce serait une mauvaise idée.
Mais il n'est pas question de monter les impôts sur les classes populaires.
Oui, bah écoutez...
Mais non. Il est question même d'accorder 2 milliards de baisse d'impôts aux classes moyennes en 2025.
Oui, mais quelle classe moyenne ?
On verra.
Quelle classe moyenne ?
Les gens entre 1500 et 2000, ça veut dire que ça fera 100 balles par ménage.
Bon. Oui.
Parce que ce sera évidemment...
Oui, non mais attendez, c'est toujours les mêmes qui payent. Hein. C'est jamais les plus aisés qui pourraient se le permettre qui payent.
Il y a des idées hein, pour aller taxer les plus aisés, comme vous dites. Hein. Notamment Pierre Moscovici qui veut une taxe exceptionnelle et temporaire. L'incident de crédit, non, jamais.
Non mais
Natacha, elle a un déficit.
Moi j'aimerais développer là-dessus. Faut...
Déficit de temps de parole pour Natacha. Voilà.
Oui.
Après on va dire en plus que je traite mal les femmes et tout ça. Non, ça va pas.
Mais non, c'est parce que c'est vraiment pas vrai. Alors là, je viendrai au secours. Bon. La vraie question, c'est qu'on s'imagine que parce que les choses se sont bien passées pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans...
200 ans, Natacha.
Voilà, j'allais pas remonter si loin que ça. Mais on s'imagine que parce que... Et donc, ça se passera bien pendant la nuit des temps à venir. Or, les circonstances, le point de départ des circonstances change, c'est-à-dire que le stock de dette augmente, les conditions de financement sont encore, malgré la hausse des taux, encore favorables, CF, le niveau des taux réels, et donc on absorbe ça avec une gestion, il faut le dire quand même, de l'agence France Trésor qui est exceptionnelle.
Ils sont exceptionnels.
Ils savent très très bien comprendre les marchés, savoir quand émettre, à quelle maturité, comment maintenir la duration de la dette. Donc,
voilà un service public efficace.
Ça, effectivement, ça l'est, et ça nous fait économiser des milliards d'euros. Donc absolument. Là, reconnaissons-le. Mais il y a une limite à cette efficacité-là, qui est l'état objectif, un, des finances publiques en termes de stock et de flux, donc de dette et de déficit, et puis le fait que cette dépense publique-là, elle soit capable ou non de générer de la croissance qui nous permette aussi d'avoir une stabilisation de ses effets. Et donc, si ces circonstances s'aggravent graduellement, on le sait, dans les crises, les choses ne sont jamais linéaires. Du jour au lendemain, on se réveille et il se passe quelque chose. Les subprimes en 2008, l'Angleterre il y a 2 ans, dans des circonstances qu'on n'attend pas forcément et qui ne sont pas forcément générées par un phénomène précis, c'est juste une rupture de l'équilibre. Donc, je ne dis pas que ça va arriver sur la France dans les trimestres à venir, mais je dis simplement que la probabilité pour que quelque chose de ce genre advienne est plus élevée qu'elle ne l'était hier et qu'elle ne l'était avant-hier. Donc, soyons prudents et ne jouons pas avec le feu parce que nous aussi, on bénéficie d'un privilège qui n'est pas exorbitant comme celui du dollar et de
l'euro. L'euro est un petit privilège quand même.
Mais on a quand même un privilège qu'il faut aussi choyer entre parenthèses parce que tant qu'on a l'euro, c'est bien. On n'est pas du tout dans un environnement où on remet en cause la pérennité de l'euro, l'avenir de l'euro, mais ça s'est passé dans un passé assez récent. Donc soyons très très chérissons ces circonstances et comportons-nous pour qu'elles perdurent.
À la moindre alerte, nos amis de la BCE sortiront du bois et viendront nous sauver. Dany, sur le risque de crédit, et puis Christian, après on avance, on fera un peu de TVA sociale quand même.
Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque de crédit, et notamment, je suis tout à fait conscient, ce que vous ne dites pas, mais qu'il y a l'arrière-plan quand même, que les marchés, du jour au lendemain, peuvent dévisser, parfois pour des raisons extrêmement irrationnelles. Les marchés se sont rendus compte, en 2009, qu'il y a l'article 103 du traité de Maastricht qui interdit à la Banque centrale d'acheter de la dette publique. Donc des fois, les marchés dévissent du jour au lendemain. Moi, je ne crois pas du tout à l'absolue rationalité des marchés, à leur grande intelligence. S'ils avaient été intelligents, ils n'auraient pas prêté au même taux aux Allemands et aux Grecs avant la crise de 2009. Je suis désolé, ce n'est pas rationnel non plus. Si les marchés étaient si efficaces et si intelligents, voilà. Puis les marchés, attention, parce que d'un côté, ils se plaignent quand il y a trop de dépenses publiques et trop de dettes publiques, mais de l'autre côté, ils se plaignent aussi quand il n'y a pas de croissance. Donc, les marchés ont des exigences et des demandes contradictoires. Moi, je ne pense pas, on s'est mis à la merci des marchés, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que le financement de la dette publique était beaucoup plus sain avant qu'on se mette autant à la dette des marchés quand on avait un circuit du Trésor. Maintenant, on a fait ce choix-là. Il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga de la politique. Je pense que la vraie question aujourd'hui, effectivement, c'est de se concentrer sur les priorités, notamment la transition écologique. La transition écologique coûte cher, mais c'est aussi une manière de faire repartir le bâtiment,
qui on en parlait hors antenne, va pas très bien. Et je suis pas loin de penser que quand le bâtiment va pas bien, le reste ne va pas bien.
C'est bien, les contraintes vertes pèsent beaucoup sur la... participent beaucoup au ralentissement du bâtiment.
Pour revenir sur les marchés...
C'est bien de la transition. Oui, Natacha, puis Christian.
Les marchés ne sont pas toujours rationnels, je suis entièrement d'accord avec ça. Seulement, les marchés, c'est un mécanisme qui fait quoi ? Qui met en face d'une demande, d'un besoin de financement, en l'occurrence celui de l'État français, une capacité de financement. Qui est cette capacité de financement aujourd'hui ? C'est l'épargne privée, qu'elle soit domestique, c'est celle des Français, mais aussi beaucoup, celle des non-résidents. Et puis de l'épargne publique, que sont les grands fonds souverains, etc. Donc, en face, c'est une épargne qui est là. C'est pas un trader seul dans son coin qui sort de l'argent des
Non, non, mais d'accord. Mais
donc le marché de la dette publique, c'est pas du tout.
Il faut pas mythifier. C'est un mécanisme. C'est un ensemble de tuyauteries qui a ses avantages et ses inconvénients, mais à la fin du fin, c'est quand même cette mise en adéquation d'un besoin de financement avec une capacité de financement. Et si la capacité de financement fait face à une capacité de remboursement qui est moindre ou perçue comme moindre, eh bien, elle va demander des rendements plus élevés. Ou alors, voilà, il faut...
Oui, mais c'est aussi, dernière chose, c'est aussi parce que dans la zone euro, on a fait ce que ne font ni les Américains, ni les Japonais, ni les Anglais, c'est-à-dire qu'on a rendu, on a fait... que les dettes privées soient des actifs risqués. Et ça, ça a provoqué la crise de 2009, et c'est toujours là. Alors qu'à l'époque, M. Sarkozy, M. Juppé nous disaient, il faut arrêter, il faut enlever cet article du traité de Maastricht. Mme Merkel a dit nein, et on en revient de nouveau à ce point-là.
À propos, justement, il y a eu une sortie assez inattendue de Patrick Artus vendredi qui disait, en fait, il faut consolider les comptes publics allemands et français parce que quand il n'y a pas de papier allemand, on va chercher du papier français à la place.
Ben oui.
Et donc, à France-Allemagne, c'est du kiff-kiff-bourrique. Je vous la résume de manière un peu moins techno que ce qu'il nous a dit, mais c'était ça. On est un peu resté sur notre chaise. Il y avait Dorothée Rouzet du Trésor qui était là. Je suis pas sûr que les Allemands, ce soit vraiment leur tasse de thé, une consolidation budgétaire.
Non, pas vraiment.
Christian, par rapport à ce qu'on s'est dit, après on avance, parce que je voulais qu'on parle
alors
de
la productivité. Alors, il y a un problème macroéconomique sous-jacent qu'on n'a pas abordé, qui est que Hollande est élu en 2012, depuis 2014, donc ça fait 10 ans, on enchaîne les plans qui sont censés redynamiser l'économie française, et ça a été le credo d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, on est dans l'échec de cette approche, puisque...
L'échec de la politique de l'offre ?
Non. L'échec dont cette politique a été menée.
Que voulez-vous dire ? Je suis mal.
Il n'y a pas que vous qui me suivez mal, puisque le gouvernement et les autorités de ce pays ne comprennent pas que pour accélérer la croissance, il faut s'intéresser à la microéconomie, des grosses PME et des ETI. Nous avons une stagnation du nombre d'ETI dans le pays. Les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire qui font entre 250 et 5 000 salariés. En gros, c'est l'entreprise de 100 à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Oui, il en faudrait le double. On est bien d'accord là-dessus.
Et on sait que quand on développe le nombre de ces ETI, elles ont une triple particularité. Elles font plus d'innovation que le reste de l'économie. Elles sont plus dynamiques en termes de création d'emplois et elles exportent davantage. Donc la réflexion qu'on doit mener, c'est pourquoi, alors que ce problème est identifié, d'ailleurs depuis Raymond Barre, ça fait une quarantaine d'années, pourquoi on n'avance pas ? Alors, on sait qu'il y a des problèmes de transmission qui sont insuffisamment réglés et surtout, on a laissé s'effondrer tout le corps central de l'économie. On a misé uniquement, et je suis favorable, on a misé, au fait que c'était uniquement, mais on a misé sur la haute technologie, on n'a pas assez misé sur les technologies de moyenne, et on a laissé s'effondrer toute la production. On ne produit plus de machines à laver, on produit plus de...
Ça, hein.
Oui, oui, mais d'autres pays ont continué à résister. Et surtout, on a un effondrement total de la production de voitures. C'était 20 milliards d'excédents il y a 20 ans, c'est 20 milliards de déficit, la filière automobile. Je regardais les chiffres hier pour un article, moi-même j'étais stupéfait. On a fait 900 000 voitures, on a produit 900 000 voitures sur le territoire français l'année dernière contre 3 millions il y a 20 ans, alors que les Allemands sont remontés à 5 millions.
Donc on a oublié le cœur de l'économie.
Donc on a oublié le cœur du système productif, et cette absence de cœur du système productif fait que on a des variations très fortes de l'activité en lien avec l'économie mondiale, parce que on n'a pas le bourrin qui fait tourner la machine de façon régulière.
Très brièvement, c'est suffisamment rare pour être souligné.
Dany Lang. On parle productivité.
Je ne suis pas
après.
Un fou furieux de la politique de l'offre, mais là-dessus, sur les ETI, je suis complètement d'accord avec vous. J'irai même plus loin. Je dis qu'avec la relocalisation, ça devrait être notre priorité absolue. Et qu'on mette les moyens là-dessus.
D'ailleurs, si doit y avoir relocalisation, elle sera faite par les ETI.
Non, mais il doit y avoir relocalisation, sinon on est mort.
Or sur ce point, par exemple, vous savez qu'il n'y a pas réindustrialisation. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas le foncier pour mettre des usines.
Pas le foncier, je sais bien. On ne va pas assez vite sur les impôts de production. Bon. Le rapport de la Banque de France sur la productivité, Natacha Valla, il s'est voulu rassurant. Ça fait des mois qu'on parle de la productivité, qu'on s'arrache les cheveux pour essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi on perd 6 points de productivité depuis 2019, comment faire autrement? La Banque de France publie une étude un peu rassurante, en ayant à peu près identifié la moitié des raisons. Il y a quand même une moitié, elle ne sait pas trop. Mais une moitié des raisons, avec certaines explications temporaires, sous-entendues, bon, ça va aller mieux. Est-ce que vous partagez cette vision de la Banque de France sur la productivité et le fait qu'on pourrait être sur une voie d'amélioration?
Alors,
j'ai fait très court là. Mais...
Sur la proportion, la moitié, c'est difficile d'être précis. On calcule, il y a plusieurs types d'évaluations. Sur le ton, je pense qu'ils ont raison. On en a discuté d'ailleurs avec la Banque de France qui est représentée au Conseil national de la productivité. Donc ils ont vraiment des travaux intéressants et sérieux. On avait vu que la contre-performance de la France en matière de productivité mesurée et apparente du travail, qui est exceptionnelle dans sa négativité depuis le Covid. On sait que ça, c'est lié en partie aux politiques de réponse, en particulier de protection de l'emploi. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bien.
On a zombifié l'emploi en même temps que les entreprises.
Voilà, il fallait sans doute le faire. Bref, on en a des conséquences assez logiques. Et en toute logique d'ailleurs, il devrait y avoir un effet de rebond à l'issue de ces politiques-là, qui sont un peu corrélatives, il faut le dire, avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les entreprises qui sont dans les tribunaux de commerce aujourd'hui. Et on commence à voir cette réalité. Il faudra la traiter. Elle est considérée comme indépendante de ce problème de productivité. Elle ne l'est pas tout à fait. C'est-à-dire que la structure de financement et l'état des bilans, en tout cas du passif des entreprises aujourd'hui, peut avoir un impact sur la dynamique de reprise de la productivité dans l'année ou les deux années qui viennent. Ça, c'est un premier point. Ce qui n'explique pas, et la Banque de France est très claire là-dessus, qu'il y a quand même une grande partie du frein sur la productivité qui reste inexpliqué, ou en tout cas inexpliqué par des facteurs temporaires et cycliques. Et c'est ce à quoi il faut s'atteler, puisque tant qu'on ne comprend pas ça, on n'aura pas forcément les clés et les propositions de politique publique qui vont nous délivrer de la productivité. Alors ce qu'on sait quand même, c'est que parmi les pays qui sont les plus performants en termes de productivité, ou en tout cas en termes de rebond de la productivité, je pense aux États-Unis, on le mesure moins bien, mais la Chine est un peu sur les mêmes métriques. Il y a un très très fort investissement du pays, que ce soit public ou privé, sur la recherche et le développement. Et un très fort...
Augmentons la dépense publique.
Alors, j'ai dit public et privé.
J'ai bien entendu.
En tout cas, l'important, c'est la proportion du PIB, après laquelle est la plus efficace, allouée à cette catégorie de dépenses-là. La vraie question aussi, c'est que nous, on est meilleurs, en France, mais en Europe de façon générale, pour la dépense et pour l'efficacité de cette dépense en matière de mise en œuvre d'innovations qui sont développées ailleurs. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met le paquet sur je vais mettre en œuvre quelque chose qui a été développé ailleurs, ou est-ce que je me repositionne sur la recherche fondamentale et sa diffusion première ? Et là, on a des experts en la matière pour analyser la chose. Il y a un rapport sur l'intelligence artificielle qui est sorti, etc. Pour dire, voilà, est-ce que je me repositionne quand même sur ces éléments-là, où j'ai pris un peu perdu de la vitesse relative par rapport aux autres, mais c'est peut-être pas trop tard. Et à ce moment-là, il faut vraiment y aller franchement en fonction des choix de politique publique qu'on fera.
Alors, parmi les éléments durables, la Banque de France cite l'essor de l'apprentissage, la quête de main-d'œuvre qui a poussé à se tourner vers des profils peut-être moins qualifiés ou encore l'essor du télétravail, des éléments qui devraient durer justement. Là-dessus, oui, Dany Lang, allez-y.
Alors, déjà, je veux dire, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de points d'accord.
Mais vous avez une experte de la productivité à votre, gauche, Dany.
J'ai lu le rapport de la Banque de France en arrivant, parce qu'on apprend les sujets un peu avant.
Oui, oui, donc, 1h15 avant, ça va. Vous voulez quoi de plus
bon, mais d'accord, mais ce n'est pas suffisant pour entrer dans les détails.
Mais non, je suis d'accord.
Mais c'est un rapport qui est intéressant. Moi, je n'oppose pas la dépense publique, la dépense privée. Effectivement, il faut de la dépense en matière d'investissement. Les États-Unis s'en sortent très bien. On s'en sort beaucoup moins bien. J'ajouterais quand même, il y a une chose qui me préoccupe depuis un certain nombre d'années en France, c'est quand même la baisse de la qualité d'un certain nombre d'emplois, et notamment tous les emplois dans le secteur des Uber, des ce genre d'emplois. Ben forcément, c'est des emplois sans gain de productivité. Donc ça n'explique évidemment pas la stagnation dont on a évoqué les...
Même le recul.
Oui, l'an dernier, on a eu 0,4% de gain de productivité d'après l'OFCE.
J'ai vu
Mais effectivement, c'est faible. Et l'enjeu de ça, il est important. Parce que quand on a très peu de gain de productivité, c'est plus compliqué d'augmenter les salaires. Et c'est très embêtant dans une période d'inflation. Où, en fait, augmenter les salaires n'est pas inflationniste si on a des gains de productivité en ligne avec l'augmentation des salaires. Donc, effectivement, c'est un véritable enjeu. À mon avis, il y a aussi un enjeu de qualité de l'emploi. Et puis, il y a aussi des emplois qu'on crée et qu'on devra créer qui ne sont pas porteurs de gains de productivité. Enfin, la France, depuis les années 90, où on était champion d'Europe de la productivité horaire, a quand même bien reculé. Il faudrait réfléchir aux autres raisons de ce gain de productivité.
C'est la désindustrialisation qui a beaucoup joué aussi.
Oui, ça j'en sais quelque chose en tant que membre du Manifeste pour l'Industrie. Voilà. Donc réindustrialiser, les États-Unis ont des gains de productivité parce que la politique de Biden, notamment avec l'IRA, c'est la réindustrialisation. Et ça va prendre un peu de temps à faire effet, mais vous allez voir dans 2-3 ans quand les usines qui sont en train de construire partout, notamment les usines de semi-conducteurs, vont fonctionner.
Et les usines allemandes, des entreprises qui ont décidé de quitter l'Allemagne pour aller chercher les milliards de Biden et l'énergie bon marché. Mais ils ont l'énergie bon marché et en plus ils ont une force de frappe en investissement public que nous n'aurons jamais.
Oui.
On peut pas avoir 8% de déficit, nous, c'est pas possible. Vous voulez rajouter quelque chose, Christian, ou je vous fais plancher sur la TVA sociale?
Allons-y.
Alors TVA sociale, c'est Bruno Le Maire, 5 points de cotisation vers la TVA, 60 milliards d'euros, pour monter le salaire net.
Oui.
Voilà.
Alors, c'est illusoire, bien que j'ai écrit favorablement sur la TVA sociale il y a quelques années.
Mais
pas 5 points. Tout montre qu'on pourrait peut-être précautionneusement monter le taux supérieur de 20 à 22, mais on peut pas monter à 25. On peut pas avoir le record d'Europe dans chaque catégorie d'impôts.
C'est le seul où on n'a pas le record.
Voilà.
L'un des seuls.
Donc si on dit, on n'a pas le record, donc on va se faire 5 points. Non, parce que qu'est-ce que ça provoquerait? Ça provoque un appauvrissement de la population, certaine façon, avec le renchérissement des biens de consommation. Et puis, surtout, la TVA sociale, c'est quelque chose qui doit permettre d'avoir une plus grande efficacité et productivité de l'économie. Alors, il dit effectivement réduction des cotisations sociales, mais en réalité, le débat actuellement, quand vous écoutez l'ensemble des propositions et pas seulement de Bruno Le Maire, c'est faire de la TVA sociale pour, en réalité, réduire le déficit, qui ne réglera pas les problèmes fondamentaux. Donc, la TVA sociale, ça peut être un petit élément, mais ce qui est le plus efficace, si on veut avoir une réaction du système économico-social, c'est la CSG. C'est l'impôt le plus efficace sur le plan...
Mais vous n'aurez pas d'effet sur le salaire net.
Vous n'aurez pas d'effet sur le salaire net, sauf si, dans le même temps, et c'est ma proposition depuis un moment, parce qu'on est avec ces 3 points de déficit structurel depuis une quinzaine d'années, à un moment donné, il faudra dire aux Français, écoutez, on va passer de 35 heures à 37 heures de durée du travail payée 37, ce qui fait à peu près une augmentation du revenu de 5 points. Et on va devoir en passer par 2 points de CSG de plus pour régler le problème du déficit structurel, c'est-à-dire qu'on va devoir le régler en travaillant davantage.
Alors vous, vous reprenez ce que dit Bruno Le Maire, mais à des fins de règlement des déséquilibres des comptes publics, pas d'amélioration de la rémunération des gens qui... Parce que l'antienne de Bruno Le Maire, c'est celui qui bosse doit gagner plus que...
Oui, mais ça, ça se fait par la réforme du chômage et l'activation du RSA et de l'ensemble des dépenses de protection sociale.
TVA, CSG, social, non,
bon,
pas d'avis.
Si, j'ai un avis.
La vie est longue.
Je suis d'accord avec vous pour dire que ça ne va pas régler les problèmes. De toute façon, la TVA sociale, à mon sens, c'est une très mauvaise idée. La TVA est déjà trop élevée en France. Donc,
Elle est moins élevée que dans la moyenne européenne.
Elle est moins élevée que dans d'autres économies européennes.
Non, le gros coût qui a été réussi.
Le plus injuste, et puis il faut rappeler qu'en SMICAR, il paye la moitié de son impôt, la moitié de son revenu en impôt, et là-dedans, il y a la TVA, la TIPP, etc. C'est pas une bonne idée au moment où les SMICAR tirent la langue à cause de l'inflation.
De toute façon, c'est restructurer la dépense pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit redirigée vers l'investissement, la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur. C'est ce qui permettra de relancer l'économie.
Le bilan de notre débat, c'est que la vraie réflexion, elle est sur la dépense publique.
La structure de la dépense.
Puisque on essaye, à partir de cette tautologie, qu'à partir du moment où on a un déficit qu'on souhaite combler, si on réduit une catégorie d'impôts, on ne va pas augmenter, enfin voilà, si on l'augmente, on ne va pas la réduire par la même proportion, sinon on ne réduit pas le déficit. Donc c'est un petit peu un tour de passe-passe.
En fait, il faut mener une politique qui relance la croissance. Voilà. Et qui relance la croissance sans augmenter le déficit, c'est-à-dire que au sein de la dépense... Franchement, au sein de la dépense, sur les 56 points, moi je vous trouve 4 points de dépense publique. Je le sais parce que il y a quelques années, j'étais conseiller de Paris. C'est quand même le premier budget de France, de collectivité locale. C'est un budget qui tourne à plus de 9 milliards d'euros. Et franchement, j'ai travaillé sur ce budget. Je connaissais tous les éléments constitutifs du budget de la ville de Paris, qui est à la fois commune et département. Et je vous garantis que sur les 9 milliards, je trouvais 1 milliard d'économies. Et je vous garantis que vous pouvez faire ça sur l'ensemble des collectivités locales. Et là, vous pouvez... L'ensemble des collectivités locales, c'est quand même 10 points de PIB. Vous pouvez, alors ça se fait pas du jour au lendemain. Vous pouvez trouver un point de PIB sur les collectivités locales, et sans foutre en l'air l'action locale.
Je suis persuadé qu'il y a certainement des économies possibles, non négligeables, mais ça demande un travail, qui soient pas totalement ultra récessives et absolument insupportables.
Et au demeurant, même sur la fiscalité, si on remet des tranches un peu plus importantes et plus progressives, c'est pas ça non plus.
On peut pas dire que l'impôt est pas progressif.
Bah écoutez. On a beaucoup moins de tranches qu'il y a quelques années. La tranche supérieure est beaucoup plus basse. Quand vous êtes comme moi, des classes moyennes supérieures... Quand vous êtes des classes moyennes supérieures, moi, je vais rester toute ma vie dans la tranche à 30%. J'aimerais bien passer dans une tranche à 32, 35%.
Quand on met les prélèvements sociaux, on est au-delà de 50% en taux marginal d'impôt sur le revenu.
Non, mais d'accord, mais l'IRPP rapporte trop peu.
Les cotisations sont déplafonnées sur les revenus.
J'ai une bonne nouvelle, si on arrête l'indexation des revenus sur les impôts, vous serez bientôt à 35%.
L'IRPP n'est pas assez progressif, et puis surtout, les taxes sur l'héritage, notamment les très hauts patrimoines, sont ridicules, ce qui fait qu'on a une calcification, et cette calcification contribue au sentiment de déclassement,
En attendant d'aller taxer les riches, on va, a priori, s'attaquer à l'assurance chômage, Christian Saint-Etienne. Oui. Gabriel Attal, demain, je ne sais pas s'il profite de l'absence d'Emmanuel Macron pour...
Mais c'est un bon exemple d'économie qui favorise l'offre. Les derniers ajustements qui ont été mis en œuvre par le gouvernement sur les conditions pour obtenir une allocation chômage ont permis une augmentation de l'offre de travail. On ne peut pas nier, parce que non seulement c'est observé par des études, mais on le voit dans ces milieux familiaux et autres, vous avez une optimisation, ça montre d'ailleurs l'intelligence des gens, vous avez une optimisation des conditions de chômage. Vous avez beaucoup de gens qui se disent à un moment donné, je vais prendre quelques mois avant de rechercher un emploi. Ça n'existe pas aux États-Unis. On rappelle qu'aux États-Unis, je rappelle juste ce chiffre, puis je termine. 34 points de PIB de prestations de protection sociale en France, dont 22 ou 23 de prestations sociales. Et aux États-Unis, c'est 20. En Chine, Chine communiste.
Oui.
Hein, c'est 10. Pourquoi la Chine avance? C'est parce qu'ils ne mettent pas l'argent sur la... Il faudrait d'ailleurs que la Chine fasse plus de protection sociale. Ils seraient peut-être moins en difficulté de politique économique. Mais nous, nous sommes au-delà de l'optimum. C'est-à-dire que vous avez, dans les classes populaires, 3-4 millions d'emplois où ça ne paye pas plus de bosser que de ne pas bosser.
Natacha, oui, peut-être bon, un mot là-dessus, ça. Sur l'un des événements de la semaine. Ça va être Gabriel Attal à la télé demain qui va... serrer la vis.
C'est une question d'incitation et les incitations, elles s'exercent le plus fortement sur la décision entre le loisir et le travail. Elles s'exercent sur la décision entre l'épargne et la consommation. Ça, c'est des leviers qui sont importants pour la croissance. Donc effectivement, moi, je pense qu'il faut guider les incitations, et ça va vers une réforme de l'assurance chômage qui soit un petit peu plus directive, qui va dans le sens que
pour être explicite, il faut avoir travaillé 6 mois pour pouvoir toucher des allocations chômage en France. C'est 1 an en Allemagne.
Non, mais je sais que c'est très différent.
Donc, il ne s'agit pas... Même si vous passez de 6 mois à 8 mois, je vous garantis que vous allez avoir une augmentation de l'offre de travail.
Le mot de la fin, là-dessus, Daniel Lang.
Désaccord complet.
Je pensais.
Ces choses-là. Quand on a 5,5 millions de chômeurs, quand ça fait des années, ça fait 40 ans qu'on baisse la durée et le montant des indemnisations...
Non, on n'a pas fait ça, on a fait l'inverse.
Ce n'est pas en punissant les chômeurs que les
emplois vont se créer. Non, il ne s'agit pas de punir, il s'agit de changer les incitations.
Je ne crois pas à la magie.
Bon.
Je ne sais pas de quoi sera faite cette nouvelle réforme.
Mais cette
baisser la durée, le montant des indemnisations. On nous a déjà remis la dégressivité qui ne marchait pas.
C'est pour les cadres, uniquement la dégressivité.
On ne va pas le traiter aujourd'hui, c'est un beau sujet pour vous. La grande différence entre efficacité et inefficacité du système, c'est la vision qu'on a de la façon dont on incite les acteurs économiques, le consommateur, l'entreprise, l'investisseur, à faire un effort supplémentaire ou pas. Et ça, ce sont des leviers qu'on n'utilise pas suffisamment en France.
Gabriel Attal, ce sera demain à la télé, je crois que c'est dans un JT, je ne sais pas lequel d'ailleurs. Merci d'avoir été là, Natacha Valla, Dany Lang et Christian Saint-Etienne. Rendez-vous demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.